Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir Robert Goulric, à qui nous vouons, alors les mots ne sont pas trop forts, vraiment un culte absolu. Pour nous, ça fait partie des plus grands auteurs américains du moment. À ce titre, je souhaite remercier également Stéphane Carrière, qui est ici présent, qui est l'éditeur donc de chez Anne Carrière, donc grâce à qui l'auteur est parmi nous ce soir. Je vais commencer par une petite, on va dire une petite présentation protocolaire, assez courte, hein, qui sera développée donc par la suite. Donc Robert Goulric est né en Virginie en 1948, où après avoir vécu à New York, où il a travaillé en tant que publicitaire, il est revenu actuellement. Bon, juste pour revenir en deux mots sur son expérience new-yorkaise, donc il était licencié au bout de 30 ans, et c'est là qu'il a commencé à vraiment écrire, pour notre plus grand bonheur. Je vais commencer par parler assez succinctement de ces quatre livres qu'il a publiés pour le moment. Vous allez comprendre pourquoi. Donc le premier, il s'agit d'une femme simple et honnête. Une femme simple et honnête qui raconte l'histoire d'un riche industriel qui passe une petite annonce. Donc ça se situe au début du XXe siècle, hein, pour situer un peu la période. Donc il passe une petite annonce en disant que voilà, il cherche une femme pour pouvoir partager son argent. Il n'y a rien de romantique en dessous de tout ça. C'est juste pour pouvoir partager cet argent et puis peut-être plus ses affinités. Donc là, forcément, il reçoit plein de réponses de femmes du pays qui sont intéressées par son offre. Et là, il va être tout particulièrement être attiré par l'une d'entre elles qui prétend être simple et honnête. Alors, qui parmi vous peut prétendre être simple et honnête? Ça cache peut-être quelque chose. Forcément, on va voir vite arriver les situations, des situations assez difficiles, donc que je vous laisserai découvrir. Ensuite, il y a eu Féroce. Féroce qui tient bien son titre. Donc là, c'est son autobiographie. Robert Goulric explique qu'il est issu de... Il vient de la famille à paillettes, la famille qui, à première vue, a tout réussi, que tout le monde admire, mais que dans l'ombre, que tout le monde déteste. Et puis lui explique que ce n'est pas si simple. Donc là, il va soulever ce voile, ce côté très sombre, où là aussi, il va être question de choses très, très difficiles. Le genre de choses qui vous marquent profondément et à vie. Voilà, donc c'est toujours servi par un style, je veux dire à la Goulric, où il fonctionne ce qu'on appelle par cercle concentrique, c'est-à-dire qu'on passe très facilement du présent au passé sans qu'on voit les mécanismes d'écriture, et rien que pour cela, ça vaut le coup de se lancer dans son œuvre. Ensuite, il confirme tout le bien qu'on pense de lui avec Arrive un vagabond, qui est l'histoire d'un homme qui débarque dans une ville. Alors, ce vagabond, justement, on ne connaît rien de lui. Sauf que, eh bien, il a deux valises. Une valise qui est chargée qui est remplie de couteaux de boucher, et l'autre d'argent. Et comme c'est un homme profondément solaire, il va s'attirer la sympathie de tout le monde. Et d'autant plus qu'une femme va tomber éperdument amoureuse de lui. Ça va être réciproque. Le seul problème, c'est que cette femme est mariée à l'homme puissant de la ville. Donc forcément, ça va semer la zizanie et bouleverser l'équilibre qu'il y avait jusqu'à présent, qui régnait dans ce village. Et enfin, La Chute des Princes, que nous allons présenter aujourd'hui, où on va suivre le quotidien, en tout cas la vie d'une bande de jeunes traders dans les années 80, qui ont vendu, alors ça c'est pour reprendre une petite formule usuelle, leur âme au dollar. Alors eux, ils brassent des millions et puis n'ont plus aucun sens des réalités. Donc le narrateur, dont on ne va jamais connaître le nom, ou à peine son surnom, va revenir sur ses années de démesure et va faire sur le point sur sa vie, et évidemment sur sa chute. D'où l'objet de ma première question. Vous avez pu voir que les thèmes traités étaient extrêmement différents. Ma première question sera comment il choisit ces thèmes.
So how do you choose the topics that you write about?
I would say that the topics choose me instead of me choosing the topics. I'm always surprised to find myself suddenly in a world that I hadn't imagined. Something happens, and I think of one image, one idea, and I get obsessed with it. And then it slowly, and I tell it to myself over and over and over, as though I'm telling myself a bedtime story. And slowly, 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 it becomes a book.
Alors en fait, ce n'est pas vraiment moi qui choisis les sujets sur lesquels j'écris, ce sont eux qui me choisissent. Ça peut apparaître souvent comme une idée dans ma tête, une petite idée qui va devenir de plus en plus obsédante. Et en fait, je commence à me raconter une histoire dans ma tête, comme si je me racontais une histoire avant d'aller me coucher, une histoire que je me répéterai.
I think of myself that I'm not an extraordinary man. I don't think of my books as being extraordinary creations. It would be too frightening to think that way. I think of myself as an ordinary man writing ordinary books for ordinary readers.
Donc, je ne me vois pas du tout comme quelqu'un d'extraordinaire qui écrirait des livres extraordinaires, mais plutôt comme un homme ordinaire qui écrit des livres ordinaires pour des gens ordinaires.
And when, always when I get to the end of a book and send it to my publisher, you know, you hit send and it goes off and it doesn't belong to you anymore, I always think, oh my God, I can't believe that I did that again.
À chaque fois que j'envoie mon manuscrit à mon éditeur, que j'appuie sur la touche envoyer, il me vient toujours cette pensée, je me dis, oups, ben voilà, je l'ai encore fait, j'ai encore écrit un livre.
Et y a-t-il des thèmes que vous interdisez de traiter dans le sens tabou, qui pour vous ne sont pas possibles, que vous ne pouvez pas écrire?
Are there topics that you forbid yourself from writing about because you consider them taboo in some way?
Never. Never. I think my next book will be very shocking to many people, even to Stefan, my publisher in France, Stefan Carrière. He is sort of amazed that I'm writing this book, and I'm amazed that I'm writing it. But it called to me, and so these books, they call to me and they ask me to do something, which is to be faithful to the characters, to be faithful to the story, and never to lie to my readers.
Alors en fait, je ne me dis jamais qu'il y a un sujet tabou. Mais vraiment jamais. Et en fait, mon prochain livre sera un livre très choquant. Et d'ailleurs, je suis même surpris moi-même de l'avoir écrit. Et mon éditeur, Stephen Carrière, est aussi également surpris que j'ai écrit ce livre. Mais en fait, ce qui est important pour moi dans l'écriture, c'est d'être fidèle au personnage, fidèle à l'histoire, fidèle finalement à ce que j'ai envie de dire.
When I'm writing a book, there is nothing else except the characters on the page, the story I'm trying to tell, and the voice that is required by that story. Every book of mine, I think, has a different voice, because the story requires that I speak in a certain way. I'm a chameleon in that way. I find a voice that fits the story and would not fit any other story except that one.
Alors, en fait, quand j'écris, ce qui est important pour moi, c'est d'être fidèle au personnage qui est sur le papier et également d'avoir une voix particulière pour chaque histoire. C'est-à-dire que chaque histoire a une voix différente, et pour chaque sujet que je traite, j'opte pour une voix différente, et en ce sens, on peut dire que je suis un caméléon.
Je voudrais revenir sur le sujet de votre nouveau roman, donc Le Monde des Traders et leur chute. Il s'agit d'un thème qui est fréquemment traité dans la littérature ou au cinéma, donc on pense au Loup de Wall Street, à American Psycho, entre autres. Comment expliquez-vous que ce thème fascine autant?
The fall of traders is a central theme in your book, and is a theme that fascinates both the movie industry and the literary world. How do you account for such a fascination?
Well, I think particularly in the 80s, everything was about money in the United States. I worked in advertising, and it would have been very easy for me to write this book about advertising. People are somehow fascinated by advertising, but perhaps because I spent 30 years doing it, I'm not so fascinated by it. It would be like asking a brain surgeon to write a novel about brain surgery. He would think it too mundane. But in the time that I'm talking about in the 80s, everything in New York was about money and power, and the center of that power was Wall Street. It was then that people first began making these enormous sums of money and spending in an enormous way. I wanted to find a way to talk about my life in the 80s in a way that was more mythical. And I think that it's not just traders. I think there is the myth of Icarus, who flies too high and gets too close to the sun and burns and falls. And that was the image that called to me. And I chose traders just because they were such great examples of that kind of hubris.
Alors, en fait, dans les années 80 aux États-Unis, et particulièrement à New York, tout était concentré autour de l'argent. L'argent était vraiment très important. Et personnellement, j'étais publicitaire. Et j'avais envie de parler de ma vie, mais de parler de publicité, de ma vie en tant que publicitaire, n'aurait pas été vraiment fascinant. C'est comme si vous preniez un neurochirurgien qui écrirait sur sa vie, écrirait donc un livre sur la neurochirurgie. Ça serait trop banal. Et donc, comme je le disais, dans les années 80, tout était, spécialement à New York, tout était concentré autour de l'argent et du pouvoir. Et en fait, le symbole de tout cela, c'est Wall Street. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'écrire sur des personnages de traders. Parce qu'en fait, c'était une façon d'écrire sur ma vie d'une façon un peu mythique. Comme si, en fait, je me suis inspirée du mythe d'Icare, qui donc vole vers le soleil et se brûle les ailes. Et cette image m'a vraiment parlé beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler des traders et de cet exemple d'hubris, c'est-à-dire d'espèce d'arrogance extrême qu'avaient les traders à cette époque.
At one point in the book, it says, in one point of the narrative, the hero is telling a story, and he says, this story is true. It actually happened. In fact, most of the stories that you hear about the 80s are true.
Il y a un moment dans le récit où un personnage dit ceci est une histoire vraie. Et en fait, pratiquement tout ce que vous pouvez lire sur les années 80, c'est réellement produit.
So this book is more than anything an autofiction of my life imagined as a Wall Street trader. But I knew these people, and I went to these parties, and I many of the things in the book happened to me, or they are versions of things that happened to me recollected 30 years later.
En fait, ce livre est une autofiction. Peut être vu comme une autofiction. Ça serait ma vie si j'avais été un trader à Wall Street. Et ce que je peux dire aussi, c'est que je fréquentais ces gens, je fréquentais les traders. Les choses dont je parle dans ce livre sont des choses qui me sont arrivées ou des choses dont je me souviens 30 ans plus tard.
I think that I write, like most writers, I think I have one topic. And the topic is redemption. And if you're going to write about redemption, you can't start with good people. You have to start with bad people, or there's nowhere to go. If they're good in the beginning, then they just go on being good, and there is no story. If they're bad, there is a chance for me as a writer, through my faith in them as people, and through my wish to, I'm the sort of person, I want to save people. I always have this desire to save people. And I think in my books, that desire is exactly the same. I want to take people who are in dangerous situations or who are deeply flawed, and I want to save them.
En fait, on pourrait dire que je ne traite que d'un seul sujet, un seul sujet qui est la rédemption. Et en fait, quand vous écrivez sur la rédemption, vous ne pouvez pas prendre comme point de départ des gens de bonnes personnes. Il faut que vous commenciez à vous intéresser aux méchants, ou en tout cas aux gens qui ne sont pas de bonnes personnes, parce que sinon il n'y a plus d'histoire. Et ils ne peuvent pas évoluer. Et en fait, j'ai foi en ces gens-là et j'ai envie de les sauver. Et c'est ce que je fais à travers mes livres. J'essaie de sauver mes personnages.
Mais justement, il y a ce pouvoir salvateur qui peut nous faire dire que finalement, le narrateur, est-ce que ce ne serait pas une sorte de survivant, justement, de ces folies, finalement?
Would you consider your narrator as a survivor of everything that happened to him, everything mad that happened to him?
Well, he is a symbol of the 80s. By the end, the book ends in the present, where he is a bookseller in a bookstore. And he says, at one point, he says, I'm the ordinary guy in ordinary pants. You see me every day. I think that it's about learning to live with less and about what happens when you get burned by the sun and fall to the ground. How do you survive? And how do you find a life that is both bearable and honorable. Does that make sense?
Alors en fait, mon narrateur est un symbole des années 80. Et en fait, le livre se termine aujourd'hui, de nos jours. Et le trader est devenu un libraire, et il dit de lui-même que c'est l'homme ordinaire, qu'il est devenu l'homme ordinaire que l'on voit tous les jours. Et en fait, il apprend comment vivre avec moins, c'est-à-dire avec moins d'argent, et comment en fait on peut survivre quand on a été si près du soleil et qu'on est tombé aussi bas sur la terre, et en fait faire de cette nouvelle vie une vie à la fois vivable et honorable.
I made him a bookseller because I believe booksellers, particularly in the United States, are great heroes. They don't do it for the money. They do it for passion. And he finds a passion which he never even knew existed. And for me and for any writer, we desperately admire and we need booksellers because of their passion for the written word, and they are the true cultural flame keepers of our society.
J'ai fait de mon héros, de mon narrateur, un libraire, parce que je pense, et c'est quelque chose qui est un sentiment largement partagé aux États-Unis, que les libraires sont des héros, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils font, ils ne font pas leur métier pour l'argent, mais ils le font pour la passion. Et en fait, mon narrateur se découvre une passion pour le monde des livres, une passion qu'il ne pensait même pas pouvoir exister. Et personnellement, et comme je pense beaucoup d'écrivains, j'admire beaucoup les libraires pour la passion qu'ils ont par rapport à la littérature. Et je pense qu'ils sont quelque part les vestales.
Didn't get the last word. Flamekeepers.
The flamekeepers of
our society.
Qu'ils sont en fait
of our culture.
Les vestales de de la société culturelle, le monde culturel dans lequel nous vivons.
D'ailleurs, ça me fait penser qu'à un moment, le narrateur qui est marié avec une femme depuis plusieurs années, Carmela, offre à cette femme, en guise de cadeau d'anniversaire, un livre. Et elle, qui a accès à tout dans toute sa démesure, le prend très très mal. Et ce serait pas une façon de dire que finalement, cette femme qui n'a plus du tout le sens des valeurs, de dire en quelque sorte que finalement le livre n'est pas le plus précieux des cadeaux.
When the narrator gives the book to Carmela, and when she takes it awfully bad, what exactly can you tell us about this passage? Is it a way to show that in this material world, she is not able to see the most beautiful of all gifts?
Do you mean when she comes into the bookstore?
No, when I think he means when.
Ah, at the birthday party.
Yeah, at the birthday party.
Carmela is in the book a collage of every woman I ever loved, and she is some of the women more than others of the women. But that scene with the book. At the birthday party actually happened and with a girlfriend, and I remember I had given her a book. The book is called Exiles by Michael Arlen Jr. It's an autobiography about his mother and father. And I've always found it a very beautiful book. And in the story, we were at a party, and all these people were giving her these extravagantly expensive presents. And the only thing, and I walked all over Beverly Hills and looked at everything, you know, and I couldn't find anything to express my love for her. And so I thought I would give her something that was extremely precious to me. And I gave her the book, and she unwrapped it, and she laughed, and she threw it on the floor. And I knew that she had, at that moment, betrayed me in some way. And it's a very small event, but it, 30 years later, it assumes an enormous importance to me, not just because she discarded the present, I think, but because the present was a book. And to me, there is something very, almost religious in the exchange of a book between lovers, that you're trying to say something that you can't say in words, and so you give a book, and she dismissed it totally. And it was a great humiliation. And I remember it as though it were yesterday.
I didn't get the name of the writer.
Michael Arlen.
Michael Arlen. Alors en fait, la scène dont on parlait avec Carmela à sa fête d'anniversaire, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé à Robert Bullrich avec une de ses petites amies. Et en fait, il lui avait offert un livre, en français, je pense qu'on traduirait « Exil » de Michael Harden. Et en fait, il n'arrivait pas à trouver un cadeau qui puisse suffisamment exprimer l'amour qu'il avait pour cette personne. Et il ne voulait pas non plus offrir la même chose que les autres qui offraient des cadeaux extrêmement chers. Donc il lui a offert ce livre, et en fait, quand il lui a offert, elle s'est mise à rire et elle l'a jeté à terre. Et donc il s'est vraiment senti trahi à ce moment-là, parce qu'en fait, même si c'était un événement somme toute relativement banal, ça a encore une importance très forte, justement parce que le cadeau était un livre et que le livre est un échange religieux entre deux personnes qui s'aiment en tout cas. Et donc encore aujourd'hui, il ressent ce moment comme quelque chose de vraiment humiliant.
It also, now that I think of it, actually, it indicates to me that in the book, that even at his worst, when he was drinking and high on cocaine and sex and big cars and fancy hotels, that there was something in his soul that was not materialistic, that was devoted to art and to, you know, I write a lot about sex, but I think that the greatest achievement between people is a kind of affection. And I think he was expressing something that was not passion, that was not sex, but was affection, and it was rejected. It's a great question.
En fait, quand je pense donc à mon narrateur, même quand il est au plus mal, c'est-à-dire complètement drogué, pendant des scènes d'orgie ou je ne sais quoi, il y a toujours quelque chose au plus profond de son âme qui est dévoué à l'art.
Et en fait, on dit que j'écris beaucoup à propos du sexe, mais en fait, le plus important, et la chose la plus importante entre deux personnes, eh bien, c'est l'affection. I'm sorry, I didn't remember what you said really last about affection.
Well, I think that affection is more lasting than sex, and more binding than love.
Alors en fait, l'affection, c'est ce qu'il y a de plus important parce que ça connecte plus de personnes que le sexe ou même l'amour.
Vous faites dire à votre narrateur, pour rester dans le domaine du livre, en tout cas de la littérature, la recherche est le plus grand chef-d'œuvre du XXe siècle, pouvoir confondu. Est-ce que vous partagez l'opinion du narrateur quand il dit ça? Et quel rapport entretenez-vous avec la littérature française?
At one point, your narrator talks about La recherche du temps perdu by Proust, and states that it is the greatest work of art of the 20th century, all arts combined. Do you share this enthusiasm?
Yes, absolutely. I think A la recherche du temps perdu is truly the greatest work of art of the 20th century in any medium. It is, in fact, for me, the only novel that really exists. Everything else is in a class that is different from any other book that has ever been written, no matter how brilliant. Because Proust created not just a fiction, not just an autofiction. He creates a world. He actually creates a world. And for the time you spend inside that book, you are not in your own life. You are in that world with those people. And those people, to me, even now, I read the book for the first time 20 years ago. And those people are as real as you are to me.
Donc je partage tout à fait l'opinion de mon personnage. À la recherche du temps perdu est vraiment la plus grande œuvre du XXe siècle, toute forme d'art confondue. C'est pour moi le seul roman qui existe vraiment. Il surpasse tous les romans, même les plus brillants, parce que Proust a créé un monde, un véritable univers, et quand on le lit, on entre dans ce monde et on vit avec les personnages qu'il a créés. Et j'ai lu ce livre pour la première fois il y a 20 ans. Et ces personnages dont je vous parle sont aussi réels que vous devant moi aujourd'hui.
But it's also an indication in the book that he, even at his worst, wants something more than a yellow Lamborghini.
Et c'est également... ça nous dit également que même dans l'état le plus mauvais où il puisse se trouver, même quand il est le moins intéressant, il veut toujours trouver quelque chose de plus profond et de plus véritable qu'une belle Lamborghini jaune.
Là, vous revenez du le week-end dernier, vous étiez au Festival Américain. Y a-t-il un auteur, là on a parlé d'auteur français, mais un auteur américain que vous appréciez particulièrement?
Is there an American, contemporary American writer that you truly appreciate?
Philip Meyer.
Philip Meyer.
He has a new book called Le Fils. And before that, I don't know what it was called in French, In America, it was called American Rust. And Philip deals with questions of very deep and very important morality. And he writes like an angel. So I think he's... I think he's probably the most important writer of his generation. He's very young, he's 35, but he is a brilliant writer.
Donc Philippe Mayer, qui a notamment publié Le Fils, et un autre livre, you said that was Rust.
American Rust. Rust.
Et donc un autre livre qui en anglais s'appelle American Rust. Donc c'est un auteur de 35 ans qui écrit en fait comme un ange et qui traite du thème de la moralité de façon très profonde. Et je pense que c'est l'écrivain le plus important de sa génération.
But I think that the great age of American literature, the great writers that I admire the most are Updike for the Rabbit books, John Cheever because he captured a certain world, and I think that the most underrated American writer is John O'Hara.
Alors, les autres grands auteurs que j'admire sont par exemple Updike et plus précisément The Rabbit Books. Et je suis désolée, je ne sais pas comment on le traduit en français.
Non,
The Rabbit Updike. Books. Donc, d'Updike. Également John Cheever. Et je pense que l'auteur qui est le plus méconnu et le plus sous-estimé, c'est John O'Hara.
And for any writer from the South in America, Faulkner is a kind of god.
Évidemment, pour peut-être pour tous les auteurs du sud des États-Unis, Faulkner est un dieu.
Il est également question dans votre roman de musique et notamment de rock alternatif. Alors vous citez entre autres My Morning Jacket, Placebo, Ray LaMontagne, Pink Martini, Nirvana. Est-ce que ce sont des goûts que vous partagez avec le narrateur? Est-ce que vous écrivez aussi en musique?
So there's two questions in one. There are numerous references to music in this novel. For example, you mentioned My Morning Jacket, Placebo, Ray LaMontagne, Pink Martini, Nirvana. Are there tastes that you share with your character?
With my what?
With your character.
Oh. I'm obsessed with rock and roll. And I listen to rock and roll every minute of the day, from the moment I wake up to the moment I go to bed. It is never off. And it is never off even when I'm writing. And one of the reasons is because I think that the American dream, as it is perceived by both Americans and by people in other countries, is often best expressed in rock and roll. It is our gift to the world. I think that the sense of loving rock and roll, even though it's kind of trivial, it speaks to me very deeply. And I also find when I write, the reason I listen to rock and roll when I write is because my mind, if it's just me and silence and my computer, my mind wanders. I can't concentrate. But if there is my computer and me and one other thing, this exquisite thing called rock and roll, then I can focus exactly on my narrative.
Alors, je suis obsédée par le rock'n'roll. J'en écoute tout le temps, du matin au soir. Je n'arrête jamais d'en écouter. Et même lorsque j'écris. Je pense que la notion de rêve américain trouve vraiment son expression avec le rock'n'roll. Et c'est un petit peu notre don au monde. Le don qu'a fait l'Amérique au monde, c'est le rock'n'roll. Et le fait donc d'aimer le rock'n'roll, cette chose, ça peut paraître tout à fait banal, mais en fait, c'est important pour moi quand j'écris, parce que lorsque il n'y a que moi, le silence et mon ordinateur, mon esprit se met à vagabonder. Et en fait, je ne peux pas me concentrer, alors que quand il y a moi, mon ordinateur et cette chose exquise qu'est le rock'n'roll, je peux vraiment me concentrer sur ce que j'écris.
There was a time in my life when I delighted in telling people that Bruce Springsteen was the American Rambo. And in many ways, I still believe it to be true.
À un moment de ma vie, je disais tout le temps que Bruce Springsteen est le véritable Rambo américain. Et quelque part, c'est quelque chose que je continue à penser.
Donc du narrateur, on connaît beaucoup de choses, ses goûts musicaux, ce qu'il lit, on connaît même ce qu'il boit, la marque de son caleçon, on connaît plein de choses, mais on ne connaît jamais son nom, juste son surnom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
We know a great deal about the narrator, what he drinks, the brand name of his underwear, even his nickname, but we never know his actual name. Why?
I think it was a way, well, Rooney, which is his nickname in the book, was something that my friends used to call me in the 80s. It was sort of a joke. And the girlfriend who threw the book on the floor, we used to call Carmela. There was no reason for it. She's an Irish-American woman. The 80s were a great time for experimenting in ways of being someone other than yourself, through drugs, through dancing, through sex, through any number of ways, through buying things. You would buy exquisite clothes, and suddenly you would become a rich person, even though you couldn't afford the clothes. It was a great deal. There was a great deal of pretending, and a great deal of striking poses, I didn't want him to have a real name, because he is, in a sense, me, and he is also, in a sense, many people like me who went through the 80s. We were not the people we are now. And I just, as I said, I am an ordinary man who makes ordinary art. And when I write, I will use anything that I can remember or think up to make a story and make it work. And that was just a memory of my young life, and so I stuck it in there. There's a part where Carmela comes back and he meets her. She buys a book from him in his bookstore, and he asks her to lunch, and she actually comes. And he calls her Carmela, and she says, nobody's called me that for years. And so we don't know her real name either. And at the end of the lunch, he says to her, it really was good for a while, wasn't it? And she says, with a great pause, She says it was amusing. There is a difference. And I think that Carmela and Rooney were our names which were designed to amuse.
Alors donc le surnom de mon personnage principal c'est Rooney et en fait c'est un surnom que mes amis me donnaient. C'était une blague entre nous. Et donc la petite amie dont je parlais plus tôt donc dans le livre se prénomme Carmela. Et il n'y a pas vraiment de raison à ça, c'est simplement une femme d'ascendance irlandaise-américaine. Et en fait, c'est surtout que les années 80 étaient une période où on pouvait être et on voulait être quelqu'un de différent de soi-même, que ça soit par le fait d'expérimenter la drogue, par le sexe, par l'argent, le fait de s'acheter des choses chères, même si l'on n'avait pas l'argent pour, c'était quelque part devenir une personne riche, devenir quelqu'un de riche. Et en fait, c'était vraiment une époque où on faisait semblant d'être ce qu'on n'était pas et où on aimait bien prendre des pauses. Et si je n'ai pas souhaité donner le véritable nom de mon narrateur, c'est parce que quelque part, ce narrateur, c'est moi, mais c'est également tous les gens qui avaient son âge dans les années 80 et qui aujourd'hui sont différents de ce qu'ils étaient à l'époque. Et comme je l'ai dit, je suis un homme ordinaire qui écrit des livres ordinaires. Et quand j'écris, en fait, je me sers de mes souvenirs, de tout ce que j'ai vécu pour pouvoir raconter l'histoire que je veux raconter. Et ça m'amène à un passage dans le livre où Carmela entre dans la librairie dans laquelle le narrateur travaille et pour acheter un livre et il lui dit « Oh, bonjour Carmela ». Et elle lui répond « Mais plus personne ne m'appelle comme ça aujourd'hui. Donc finalement, on ne sait pas non plus quel est son véritable nom. » Et
he says it was good for a while, wasn't it?
Yeah.
And she says it was amusing. There's a difference.
Voilà. Et en fait, c'est le passage où il lui demande, mais en fait, notre mariage, ça a été bien pendant un moment. Et elle lui répond, non, ça a été amusant. Et en fait, c'est une grande différence.
In the 80s, I think, now that I recollect it 30 years later, we were saints and monsters. We were prophets and addicts. We were wholly self-absorbed. And yet there was, for those who survived, there was both a kind, there was both a great regret that so much of their youth had been wasted on a life that had no meaning. And there was also a nostalgia for a time when life was enormously exciting and I have to say, enormously fun.
Les années 80, c'était les années du sexe, des monstres, du profit. Nous étions vraiment absorbés par nous-mêmes, d'une certaine façon. Et ceux qui ont survécu aux années 80 ont le sentiment que leur jeunesse a été gâchée, qu'elle n'a pas eu vraiment de sens véritable. Et ce sentiment est mêlé également à une nostalgie une certaine nostalgie parce que c'était vraiment une époque très excitante et il faut bien le dire, une époque absolument où l'on s'est amusé follement.
Je voudrais également revenir sur un des personnages que j'ai, personnellement j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est celui de Holly. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Can you tell us about the character of Holly?
When I was young, I used to write journalism as a sort of extra job from advertising. Andy Warhol had three great and famous superstars, as they were called. One was named Candy Darling, and Candy died. They were all transvestites. Candy Darling died when she was 23 of stomach cancer. There was Jack Curtis, who had two distinct persona. One was James Dean, and the other was this big, enormous, made-up, Broadway, brassy dame. And then there was Holly Woodlawn. And I was asked to write an article about Holly Woodlawn. And Holly said that she was not very intellectual and that the only way to get to know her was to spend time with her. So we spent 2 or 3 months just going around New York and going to parties, and we would break into bars and steal bottles of champagne and go to parties, and we would do all kinds of things that were sort of semi-legal and quite illegal. And Holly then was the one, is the one who in the book says to me that she's fallen in love with somebody, and when I asked who it was, she said, "You." And I was astonished. And she said, I think this is the most important and lasting thing about La Chute de France. It is the most important thing that I wanted to say in this book. And she said to me, she said, "I'm not telling you because I think anything will happen. You're very normal, and I'm a freak. And I'm telling you because I think that to love somebody and not tell them is the greatest sin in the world. Because then, if you don't tell them, when they walk into a room full of strangers, or when they get on an airplane, or when they walk into a meeting with people they don't know that there is somebody who loves them. And I'm telling you this because I love you, and I will love you forever." And in the book, the narrator then says, we were having lunch, and then Holly left, and I never saw her again. Never saw her again. But I always remember this story, and I say it over and over and over to people, that if you love somebody, you have to tell them, because it is necessary in this world to survive the cruelties and the banalities and the difficulties of this world. It is necessary to feel loved, even if the person you love is somebody you last saw 30 years ago. And he says this in the book. And he says, but after all, because in the end of the book, he lives alone and he lives a very lonely life. But he says, "But I am loved." And then he says, "Forever, forever, forever." And I think that is the heart of La Chute de France.
Quand j'étais jeune, en fait, j'écrivais des piges. Et en fait, il y avait à l'époque, c'était la grande époque d'Andy Warhol, et il y avait trois personnes qui gravitaient autour de lui, qui étaient toutes des travestis. Parmi eux, il y avait Candy Darling, qui est décédée à 23 ans d'un cancer de l'estomac. Il y avait aussi Jack Curtis, qui aimait faire des imitations et notamment se déguiser en James Dean. Et puis, il y avait quelqu'un qui s'appelait Hollywood et qui disait à qui voulait l'entendre qu'elle n'était pas quelqu'un d'intellectuel et que pour la connaître, en fait, il fallait vivre avec elle, il fallait passer du temps avec elle. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Ils ont passé du temps avec Holly pendant 2 mois à faire toutes sortes de choses un peu folles à New York, comme voler des bouteilles dans des bars, enfin, faire toutes sortes de choses un peu folles et un petit peu illégales. Et dans le livre, le personnage de Holly est vraiment le seul personnage qui parle vraiment d'amour. Elle dit que lorsque... Donc elle dit au narrateur qu'elle l'aime, et lorsque elle dit que quand on aime quelqu'un, donc il y a ce passage dans le livre, elle dit que quand on aime vraiment quelqu'un, il faut absolument le lui dire et que c'est un péché de ne pas lui dire qu'on l'aime parce que bien cette personne, quoi qu'elle fasse dans la vie, qu'elle rentre dans une gare, peu importe ce qu'elle fasse, en fait, elle ne saura jamais qu'elle est aimée. Et en fait, c'est une des choses, je trouve, un des éléments les plus importants de ce livre, en fait. Le fait de dire que quelqu'un vous dise qu'il vous aime, même si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 30 ans. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve très important. C'est qu'il faut vraiment dire aux gens qu'on les aime. Les gens ont besoin de savoir qu'ils sont aimés pour pouvoir survivre en fait dans ce monde cruel et difficile. Et donc c'est vraiment un point essentiel de La Chute des Princes.
J'aimerais bien finir. Enfin, il m'a semblé impensable pour vous qui a adoré Proust de ne pas finir sur un questionnaire de Proust. Alors je ne sais pas si le mot en anglais ou le principe c'est
oui,
le
c'est
même. Donc voilà, j'ai préparé 7 ou 8 petites questions. Tiens, tu peux l'annoncer déjà.
Oui. So to conclude, before we move on to the questions, we'd like to subject you to the Proust questionnaire. So.
Alors, la qualité que vous préférez chez un homme.
The most important quality for you in a man.
Honesty.
L'honnêteté.
Et chez une femme?
In a woman.
Affection.
L'affection.
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis?
What do you value the most about your friends?
Their love for me.
Leur amour pour moi, le fait qu'ils m'aiment.
Et votre principal défaut?
Are your main flaw?
My main flaw? Laziness.
La paresse.
Vos peintres favoris?
Your favorite painters?
David. And... who else? David and Parmigianino.
Vos héros dans la fiction?
Your fictional heroes.
Rawdon Crawley in Vanity Fair.
Dans le livre Vanity Fair. Donc c'est la foire aux vanités, il me semble.
Thackeray. And Mr. Hightower in Faulkner's Light in August.
Et Monsieur Hightower dans Lumière d'août. Lumière d'août. Je pense que c'est ça.
Et dans la vie réelle, vos héros dans la vie réelle.
And your heroes in actual life.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
I think.
Je pense.
Lafayette.
Lafayette.
Lafayette had, in his study, he had a big frame made, and on one side of the frame, there was the American Declaration of Independence. And on the other side of the frame, there was nothing. And he was asked why half the frame was empty. And he said, because that is where the French Declaration of Independence will one day hang. And that, to me, is heroic and brave and brilliant.
Donc Lafayette, et surtout parce que je pense précisément au fait que dans son bureau, il avait un grand cadre. Sur un côté du cadre, en fait, on trouvait la déclaration d'indépendance américaine. Et en fait, sur l'autre côté, il n'y avait rien. Et quelqu'un lui a demandé, mais pourquoi il n'y a rien sur l'autre côté de ce cadre ? Et il a répondu, parce que c'est là où se trouvera la déclaration d'indépendance française. Et quand elle aura lieu.
And he lived to see his dream come true. He spent his entire fortune creating America. And then he came back to France and he did the same for France.
Lafayette a dédié sa vie et sa fortune à créer l'Amérique telle que nous la connaissons. Et puis il est rentré chez lui et il a fait la même chose dans son pays.
Et pour finir, j'aimerais connaître votre mot préféré.
And to end this questionnaire, I would like to know what is your favorite word.
Evening.
Le soir.
Bien, on peut vous remercier pour...
And I have a favorite French word. I love the word éblouissant.
J'adore le mot éblouissant.
Merci beaucoup.
Thank you very much.